toute la vie de Robert Durst était jonchée de cadavres. D'abord, il y a eu la mystérieuse disparition de sa femme Kathleen en 92. En 2000, quand la justice américaine rouvre le cas, la meilleure amie de cette dernière, témoin clé, est exécutée chez elle. Il réussit plus tard l'exploit d'être acquitté du meurtre de son voisin.
Bonsoir. Si la vie du milliardaire Robert Durst avait été un scénario destiné au cinéma, Hollywood l'aurait sans doute refusé. Trop invraisemblable, trop extraordinaire, trop démentiel pour être crédible et porté au grand écran. Le 17 mai prochain, Durst, dont la famille a fait bâtir bon nombre de gratte-ciel à New York, comparaîtra devant un tribunal accusé de meurtre. Dernier épisode d'un feuilleton criminel qui dure depuis 40 ans. 40 ans au cours desquels Durst, héritier fantasque et angoissant d'une puissante dynastie, a défrayé la chronique. La mystérieuse disparition de son épouse, l'exécution de sa meilleure amie et le meurtre barbare d'un de ses voisins. Malgré les accusations, les soupçons, Robert Durst, Bobby Durst, a toujours glissé entre les gouttes de la justice, à ce jour jamais condamné, avant qu'il ne se trahisse lui-même. Là aussi, le scénario est spectaculaire, nous allons le voir. Après avoir été piégé par son micro lors d'une émission télé, c'est ce destin hors norme, celui de Robert Durst, que nous avons choisi de raconter ce soir avec nos invités. Nous verrons si le milliardaire diabolique va continuer à échapper à la justice.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, le cas de Robert Durst, le milliardaire fantasque, sera jugé pour meurtre dans 2 mois. 40 ans que l'ère du soupçon pèse sur lui. À l'hiver 1982, son nom apparaît pour la première fois dans un dossier de police. Le vendredi 5 février 1982, un petit homme au physique sec et au regard sévère se présente au commissariat de la 20e section de Manhattan à New York. Il s'appelle Robert Durst. Il a alors 38 ans. Il vient signaler la disparition de son épouse Kathleen, nom de jeune fille McCormack, 29 ans, cheveux châtains, 1m65 pour 55 kilos. Ils sont mariés depuis 9 ans. L'homme parle calmement, presque détaché. Aucune inquiétude ou excitation n'est palpable. Robert Durst raconte avoir vu Cathy pour la dernière fois il y a 5 jours. C'était à South Salem, une petite ville au nord de New York où le couple possède une maison de campagne. Ce dimanche 31 janvier, Cathy aurait passé l'après-midi chez une amie, Gilberte Najami, qui habite à 45 minutes de chez eux. Elle aurait ensuite rejoint la maison de campagne. Durst dit avoir dîné avec elle et s'être disputé pour des broutilles. Il aurait ensuite amené Cathy jusqu'à la petite gare de Katona. Elle aurait pris le train de 21h17 pour rejoindre New York, 1h30 de trajet. Il dit lui avoir téléphoné pour savoir si elle était bien arrivée. Mais il ne sait plus bien d'où il a passé ce coup de fil. La maison de campagne, un restaurant ou... Non, cette fois, il se souvient, une cabine téléphonique, cabine isolée, difficile d'accès à cause de la neige et de la boue. S'il était dans ce coin perdu, c'est qu'il promenait là son chien Igor, le husky. Robert Durst explique que s'il a attendu 5 jours pour signaler la disparition de sa femme, c'est qu'il a avec elle des rapports distants. Elle a sa vie, inscrite en 4e année de médecine, il a la sienne. Il soupçonne Cathy d'être un peu trop portée sur la bouteille, de prendre de la cocaïne et même d'avoir un amant. Le couple dispose de 2 appartements à Manhattan et ne manque de rien, il faut dire que ce Robert Durst, qui ne paye pas de mine, est l'un des hommes les plus riches de la ville, l'un des 4 enfants et héritier potentiel du bâtisseur Seymour Durst, une dynastie aussi célèbre dans le bâtiment que la famille Trump. La Durst Organization a érigé à Manhattan bon nombre de buildings colossaux et de gratte-ciel. Ils en possèdent plus d'une centaine et en tirent de confortables loyers. Malgré sa fortune colossale, Robert Durst est toujours vêtu de vestes usées jusqu'à la corde, roule dans une voiture sans âge, on le dit rongé par l'avarice et d'un caractère imprévisible, voire violent. Mais pour l'instant, la police ne montre aucun empressement à retrouver Cathy. Bonsoir Aurélie Raya.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ce soir l'une de nos invités dans l'heure du crime. Et vous êtes d'ailleurs dans le studio de l'heure du crime, Aurélie Raya, journaliste à Paris Match, auteur du livre « Drame chez les riches » chez Stock, livre dans lequel vous consacrez d'ailleurs un très long chapitre au parcours de Robert Durst. Alors on va évidemment progresser dans cette enquête sur la disparition, enquête qui ne va pas en rester là et loin de là. Le personnage central de toute cette histoire, Aurélie Raya, c'est Robert Durst. Alors j'ai rapidement dressé son portrait. Racontez-nous un peu plus précisément qui il est, ce richissime héritier.
Richissime héritier de Seymour Durst. Il est le fils cadet, il y a Douglas avec lui. Il a toujours été en compétition avec son frère de façon un peu étrange, maladive presque. Et il a toujours été un peu étrange. Il aura dit plus tard qu'il avait vu sa mère, par exemple, quand il avait 7 ans, se suicider sous ses yeux, que son père l'avait emmené voir, qu'il l'avait vu tomber. Il a été diagnostiqué assez tôt avec des problèmes psychologiques assez importants. Mmh. Il a quand même réussi à toujours travailler dans l'organisation. Il allait récolter des loyers dans les immeubles un peu miteux que son père possédait. Il travaille pour l'organisation, mais c'est pas. Il va pas prendre. Son père a un peu des hésitations et ne lui fera pas prendre sa relève.
Il ne va pas lui faire totalement confiance, non. Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose.
Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est quand même. Le père est un peu dur, est un être vraiment très très dur, et il préfère Douglas, à qui il confiera les rênes de l'organisation. En tout cas,
Aurélie Raya, c'est une famille très importante à New York. Hein.
Ah oui,
parlé des Trump. C'est un peu
l'équivalent. Ils sont l'égal des Trump et des Hensley. Il y a 5 familles qui dominent l'immobilier à New York. Et dominer l'immobilier à New York, c'est comme le pétrole au Texas, c'est-à-dire qu'on est immensément riche.
On est en haut du Derrick au Texas, comme on est en haut de gratte-ciel à New York.
Voilà, c'est ça. Hein,
c'est ça. Et aussi, Durst, il a des amis puissants, évidemment, cette famille politique, etc. Et puis, je crois que Robert Durst, il fréquente aussi des gens du showbiz, etc. Il est un peu happy few.
Il a une liaison avec Prudence Farrow pendant quelques années, alors qu'il est marié. Il connaît un peu des gens, mais il est très bizarre. Quand même, il est très discret, il est un peu inatteignable dans son monde.
Un peu à part.
Donc il est compliqué à. En fait, il est avant de déclarer le meurtre de sa femme, il n'était pas connu.
Tout à fait.
C'était pas un personnage des nuits new-yorkaises.
Bien sûr, le nom de sa famille est évidemment connu à l'époque, mais lui.
Non, lui, il n'est pas connu.
Il est totalement inaperçu. Il a la quarantaine d'années à ce moment-là, 38 ans, on l'a dit.
Il vit assez chichement.
Oui. Très radin d'ailleurs, c'est ce qui va apparaître aussi dans.
Mais à part le fait d'être sorti avec Prudence Farrow, qui est donc Dear Prudence des Beatles, donc avec qui il a eu une aventure, c'est pas quelqu'un qui est très qui est mondain, c'est pas quelqu'un. Après, sa famille connaît des politiciens, parce qu'à New York, réussir dans l'immobilier, c'est connaître tout un tas de gens pour pouvoir construire des buildings sans être trop ennuyé. Donc oui, sa famille connaît beaucoup de monde.
Bonsoir Philippe Coste.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en ligne ce soir dans l'heure du crime et en direct ce soir avec nous. Vous êtes journaliste indépendant, vous vivez à New York, je crois, depuis beaucoup d'années, c'est ça ? Depuis une trentaine d'années, c'est ça ?
Un peu moins d'une trentaine d'années, oui.
Donc vous connaissez parfaitement ce milieu-là. On parlait de la famille Durst à l'instant. Est-ce que quand il y a l'annonce de cette disparition qui touche quand même une famille connue, est-ce que les journaux, ça n'en parle tout de suite ?
Les journaux en parlent, mais effectivement, il y aura l'affaire sera très vite, je dirais pas étouffée, mais elle va s'édulcorer, elle va être un peu perdue dans la masse des informations de New York, du fait surtout qu'on ne retrouvera jamais le corps de sa première femme. Et donc au départ, bon, il n'était pas rare que des couples richissimes se séparent, ça faisait partie un peu de la vie mondaine new-yorkaise, mais je crois que du côté de Robert Durst et de la famille, il y a eu aussi beaucoup d'efforts pour justement ne pas communiquer sur l'affaire. Il y a eu assez peu d'informations après. Il est vrai que dans l'attente de retrouver cette femme, l'affaire s'est progressivement estompée dans l'actualité.
Et ça veut dire aussi ce que vous dites, Philippe Coste, c'est important, c'est que finalement la famille a un petit peu essayé d'étouffer cette affaire qui pourrait faire scandale, en tout cas nuire à leur image.
Oui, quand on voit d'ailleurs, toute cette affaire nous amène au contraste entre, je dirais, les horreurs qu'on attribue à Robert Durst et la discrétion presque maladive de la famille. Il est vrai qu'à l'exception de Donald Trump dans l'immobilier à New York, la plupart de ces entreprises travaillent sur le long terme, sur les bons contacts avec les hommes politiques, sur le low profile, sur garder un profil bas, pour éviter justement la controverse et des ennuis qui pourraient être néfastes au business. Et donc, il y a eu un grand silence de la part de la famille. Mais bon, on a vu récemment que les frères en particulier étaient de moins en moins patients avec Robert.
18 ans vont ainsi s'écouler sans que Robert Durst ne soit réellement inquiété. Pas de preuves contre le milliardaire. La justice considère que l'épouse malheureuse a sans doute pris le large. Un témoignage tardif et inattendu va relancer l'enquête. Au mois de novembre 1999, un délinquant sexuel bien connu téléphone au détective Joseph Becerra de la police de l'État de New York, comté de Westchester. Il lui parle de la disparition de Cathy Durst il y a une vingtaine d'années. Il dit avoir appris par l'ancienne femme de ménage du couple que celle-ci aurait été tuée et enterrée dans un bois du Connecticut. Son mari, Robert Durst, serait l'assassin. Le délinquant, en bon informateur, donne des détails. Le détective Becerra est intrigué. Il se fait alors communiquer le dossier et se retrouve confronté à une ribambelle de points d'interrogation. Il apprend que 24 heures avant la déclaration de la disparition, une femme a signalé l'absence de Cathy, Gilberte Najami, l'amie chez qui elle avait passé l'après-midi. Il n'y a pas eu de suite, mais cette alerte a peut-être décidé le mari à se manifester. Najami a raconté à l'époque que Robert Durst avait coupé les vivres à Cathy, qu'il était violent. Le dimanche de la disparition, il l'aurait appelée pour qu'elle le rejoigne dardard. L'épouse aurait dit alors à son ami: s'il m'arrive quoi que ce soit, Bobby sera le responsable. Joseph Becerra note qu'à l'époque, Durst a bien failli être inculpé pour le meurtre de son épouse, mais le procureur s'y était opposé, pas de preuves. Dossier classé en décembre 1982. Malgré ce classement judiciaire et l'ancienneté des faits, le détective Joseph Becerra va convaincre la justice de rouvrir l'enquête sur la disparition. Mais pas question d'alerter Robert Durst. Becerra s'aperçoit que l'emploi du temps de Durst au soir de la disparition est incohérent. Un témoin qui certifie avoir vu Cathy dans l'appartement de New York le 31 janvier 82 au soir avoue qu'il s'est trompé. Il apparaît encore que quelques jours après la disparition, la femme de ménage du couple avait découvert une tache de sang, élément négligé à l'époque. Becerra est alors convaincu que Durst détestait sa femme et qu'il l'a tuée dans la maison de South Salem, empochant sa part d'héritage. Il aurait enterré son corps dans une forêt du New Jersey. La police du comté de Westchester entreprend des fouilles. Le détective et son équipe réentendent les témoins. Parmi eux, ils attendent beaucoup du témoignage de la meilleure amie de l'épouse, Suzanne Berman, une journaliste installée en Californie. Elle était au courant de beaucoup de secrets et accepte de tout déballer. Mais l'audition n'aura pas lieu. Le 23 décembre 2000, Berman est retrouvée morte, abattue d'une balle dans la tête dans sa maison de Benedict Canyon à Los Angeles. Elle-même fille d'un puissant gangster, elle préparait un livre sur la mafia. La police locale parle alors d'un règlement de compte. Aurélie Rayal, l'une de nos invitées ce soir dans l'heure du crime, journaliste à Paris Match. Alors là, tout s'accélère et pourtant on est 20 ans après la disparition de l'épouse de Robert Durst. Enquête qui repart, j'ai envie de dire, dans le dos de l'intéressé. Quel est l'homme 20 ans après la disparition de sa femme, lui-même a changé, c'est plus le même bonhomme, c'est-à-dire qu'il n'est même plus dans. Il est persona non grata au sein même de sa famille.
C'est-à-dire que sa famille a vraiment désigné officiellement Douglas, l'autre frère, comme étant celui qui reprendrait les rênes de Seymour. Donc lui, il a décidé de partir, de quitter la Durst Organization parce qu'il ne supportait pas ça. Mais il a pris beaucoup d'argent quand même. Il a pris une soixantaine de millions de dollars pour vendre ses parts.
C'est pas mal.
Et donc après, c'est un millionnaire errant. C'est-à-dire qu'il a des appartements un peu partout. Il a des appartements en Californie, au Texas, en Floride. Il a vendu la maison de South Salem, là où il vivait avec Cathy, en 90. Et après, il se balade un peu en Amérique. Mais avec beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, c'est très une vie particulière.
Oui, c'est ça. C'est une vie solitaire.
Solitaire.
Hein, et en tout cas, qui itinérante, on peut dire. Hein. C'est pas du tout.
Il vit quelques mois à Houston. Il vit quelques mois à New York. Il vit quelques mois en Floride. Et pas d'obligation.
Et Aurélie Raya, il ne se doute pas qu'on enquête sur lui à ce moment-là.
Non, il s'en doute pas. Et il s'en doute pas du tout, parce que Becerra, c'est en 99. Le meurtre est lui en 82. Donc il se doute de rien. Il vit sa vie. Et en fait, Becerra demande, quand il fait la réunion, qu'il y ait un silence absolu sur l'enquête qui va se réouvrir.
Becerra, c'est le policier. Hein.
Oui, pardon, c'est le policier qui fait, avec la procureure de New York, ils expliquent qu'ils vont réouvrir l'enquête, faire tout un tas d'investigations, mais qu'il faut absolument, ils expliquent à leur équipe qu'il faut que ce reste secret.
Ah,
il ne faut pas que Robert Durst soit au courant qu'il y ait une enquête. Et évidemment, trois jours plus tard, dans le New York Times et dans le New York Daily News, tout sort.
C'est compliqué.
Et donc, il est mis au courant.
Ah, c'est journaliste. C'est
voilà,
terrible.
Ça sort, c'est dramatique. Et la piste Suzanne Berman avait été évoquée, ben, évidemment...
On va d'ailleurs en parler de Suzanne Berman dans le chapitre qui vient. Philippe Coste, notre invité également ce soir dans l'heure du crime, et vous êtes en direct avec nous depuis New York. Je parlais de cette première enquête sur la disparition qui a failli aboutir à l'époque, on ne le sait pas trop, mais on était à deux doigts de renvoyer ce personnage devant un tribunal. Pas de preuves. Vous qui connaissez bien la justice américaine, Philippe Coste, vraiment, il faut absolument des preuves pour pouvoir renvoyer quelqu'un devant le tribunal. Hein. Pas simplement des intuitions.
Il y avait une tradition aussi à New York, qui est une ville de stars, de milliardaires et autres, une tradition de timidité des procureurs locaux, la peur de se lancer dans des procès ou de procéder à des inculpations qui ne seraient pas suivies des faits. D'ailleurs, on l'a vu dans énormément de cas. Hein, je donnerais même le cas de Strauss-Kahn, par exemple. Donc il y avait une espèce de crainte de ce côté-là. On n'attaque que sûr dans ce genre de cas. Parce qu'on sait qu'en face, avec la famille Durst, on va se retrouver avec des avocats de haut vol, des stratégies, des budgets absolument incroyables au niveau contre-enquête ou par ces avocats. Donc il y a à la base une crainte d'attaquer sans matériel suffisant. Ça a joué énormément.
Bien sûr. Alors oui, exactement. C'était la question que j'allais vous poser. C'est ce que vous dites est très important parce que ça veut dire que Durst, il a bénéficié de cette espèce de crainte judiciaire. Ça lui a permis de se faufiler, de glisser entre les gouttes.
Oui, il est très bien défendu et les procureurs le savent. Donc on n'attaque que sûr. Il y a une grande crainte aussi des procureurs de se ridiculiser dans des procès, dans des non-lieux. Et donc au départ, ça a joué énormément dans la timidité des pouvoirs publics à son égard. Et d'autre part, il est vrai qu'on manquait énormément d'informations. Pour l'instant, on avait comme dossier que les contradictions. Bizarre du personnage, ses propos alambiqués, on n'en savait pas plus.
Des contradictions et des soupçons. Et évidemment, encore un mot, Aurélie Raya, il y a cette enquête donc, du détective Becerra qui va être capitale. Hein, il s'accroche vraiment, il remue ciel et terre pour trouver quelque chose. Il est tout prêt de toucher au but, mais quand il est tout prêt de toucher au but, évidemment, il y a la mort de la témoin numéro 1.
Au moment où ils interrogent les liftiers, ils interrogent tous les gens de l'époque, ils trouvent vraiment, ils commencent à trouver une des pistes et ils se disent bon, c'est Suzanne Berman, la meilleure amie de Robert Durst à l'époque, qui doit détenir des clés. Elle l'a toujours couvert, elle orientait les journalistes à l'époque pour dire mais non Robert. Ils se disent c'est elle la clé, il faut absolument qu'on aille la voir. Et vraiment, et comme dans la presse la contre-enquête qu'il est en train de mener est sortie, Durst se dit c'est vers elle qu'ils vont aller.
Ah oui,
et donc, potentiellement.
Et là c'est sans doute le déclic de ce qui va se passer.
Voilà.
Robert Durst a lui quitté New York avec un confortable paquet de dollars. Il a des appartements un peu partout dans le pays. Il circule pour se faire oublier et désormais pour échapper à l'enquête sur la disparition. Durst va refaire surface au détour d'un crime atroce. Robert Durst est à l'autre bout du pays alors que l'enquête sur la mystérieuse disparition de sa femme se poursuit à New York. Investigation qui pourrait brutalement se rapprocher de lui et l'envoyer devant un tribunal, même si le détective Becerra n'y croit plus vraiment. L'assassinat de la femme qui était le témoin numéro 1, Susan Berman, une intime du couple Durst, est un coup dur. Sans elle, difficile de faire inculper Durst. Drôle de hasard, l'héritier milliardaire était bien à Los Angeles quand Berman a été tué. Il lui a même fait 2 versements de 25 000 dollars. En dépit de ces coïncidences, il n'a pas été entendu sur ce crime imputé à la mafia ou un petit ami jaloux. Décidément, Durst a le don d'échapper à la curiosité. Il s'en sort bien. Il ne fait aucun faux pas. La chance est avec lui. Mais la chance, ça tourne. Dans la soirée du 30 septembre 2001, le torse d'un homme est retrouvé échoué sur une rive de la baie de Galveston, au Texas. Les plongeurs récupèrent ensuite les bras et les jambes enfouis dans 3 sacs plastiques. La tête reste absente. Dans un des sacs, les policiers découvrent un journal avec le nom de l'abonné et une adresse, Maurice Black. 2213 avenue K à Galveston. Sur place, les enquêteurs établissent que Maurice Black, 71 ans, est bien la victime atrocement dépecée. Il est présenté comme un homme irascible, mauvais voisin. Dans les poubelles de cette grosse maison coloniale délabrée, un pistolet et la facture d'un opticien au nom de Robert Durst. Ce Durst n'habite pourtant pas là. La victime n'a qu'une voisine, une certaine Dorothy Seiner, une femme handicapée qui vit dans une maigre pension et porte un chignon gris. Elle est absente. Chez elle, on découvre des traces de sang et une cassette VHS consacrée à une émission sur la vie de Cathy Durst. Cette femme, qui est présentée comme muette, n'est en fait que Robert Durst en personne, sourcils épilés et crâne rasé sous sa perruque. Depuis un an, il s'habille en femme pour se faire oublier. Durst est interpellé, il s'acquitte d'une caution de 300 000 dollars, puis repart en cavale, arrêté 45 jours plus tard et cette fois incarcéré pour le meurtre et le dépeçage du retraité. 2 ans plus tard, il comparaît devant un tribunal du Texas. Il reconnaît la mort de son voisin, mais jure que ce décès était accidentel. Il indique s'être disputé avec la victime qui le menaçait avec une arme. Les deux hommes ont roulé par terre et le coup est parti. Durst raconte qu'il était persuadé que la police ne le croirait pas. Il a donc essayé de faire disparaître le corps. Il a passé une nuit à le découper à la scie. Les avocats du milliardaire plaident l'irresponsabilité. Ils indiquent que leur client souffre d'une forme d'autisme qui l'a empêché d'avoir conscience de ce qu'il faisait. Et contre toute attente, Durst est acquitté. Peu importe que le jugement fasse scandale, c'est libre qu'il ressort du tribunal. Philippe Coste, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, est en direct depuis New York. Alors là, c'est une incroyable story, un incroyable rebondissement dans cette affaire. Je suppose qu'à l'époque, ce procès, il est retentissant, et notamment le verdict.
Oui, il est désolant, parce que c'est un peu, je dirais, le symbole des failles du système des jurés américains. Robert Durst a un avocat absolument extraordinaire, qui est un vieux routier de la justice texane, Dick de Guérin, réussit à embobiner ce juré d'une manière absolument incroyable, alors que les procureurs locaux qui se fondent simplement sur le dossier, l'horreur du dossier, l'invraisemblance de la question de la légitime défense et autres, passent mal devant ce juré et succombent à l'opération de séduction de leur adversaire, de la défense. Et c'est un procès qui se passe à Galveston, hein, au Texas. Il faut voir aussi qu'il y a un côté un peu, je dirais pas, c'est un lieu industriel, mais aussi extraordinairement provincial, avec le respect absolu, une dévotion envers ces avocats de renom, ouais, que sont Dick de Guérin et ses assistants. Et ça marche, contre toute attente, ça marche. On croit à la légitime défense, du moins le juré croit à la légitime défense, et acquitte contre toute attente
Robert Durst. Est-ce que vous vous souvenez comment il apparaît à ce procès, lui? Il fait plutôt profil bas,
il a un profil bas, il a un côté un peu, il en rajoute du point de vue de sa folie, par ses regards et autres. Il regarde les jurés, par moment, il a un côté complètement absent. Mmh. Mais celui qui mène la danse, c'est vraiment c'est son avocat qui compense, ouais. qui fait oublier complètement, les bizarreries suspicieuses de son client. Ouais. Au moment du de l'annonce du verdict. Durst est dans un état d'excitation, de joie et autres, qui prouve aussi qu'il sait très bien ce qui est en train de se passer. Il est marqué par une surprise colossale au moment de l'annonce du verdict.
Il sait très bien ce qui s'est passé. Il sait qu'il a gagné. Aurélie Raya, journaliste à Paris Match et notre invitée ce soir dans le studio de l'heure du crime. Décrivez-nous un petit peu quand même cette cavale de Robert Durst avant qu'il soit jugé. Cet homme en perruque, c'est ça, c'est pendant un an, il va se déguiser en femme, etc.
C'est inimaginable, on dirait un mauvais film.
Hitchcock,
parce que oui, on pense à ça, mais Galveston, c'est quand même pas une ville très riante. Hein. Ouais. Il a quand même beaucoup de millions de dollars et il est là dans ce studio miteux avec sa perruque, son voisin. Enfin, c'est vraiment inimaginable. C'est peut-être pour ça que j'ai eu envie d'écrire, je crois, sur lui.
Oui, vous avez bien fait. Ce que vous dites aussi, Aurélie Raya, c'est que ce voisin, il s'est douté de quelque chose.
Ce voisin, je pense que il y a des supputations. On pense que ce voisin le faisait chanter et avait découvert sa véritable identité, ce qui serait le vrai mobile du crime sordide.
C'est ça.
C'est qu'il lui aurait fait chanter en lui disant « Écoute, je sais que t'es Robert Durst, donc maintenant tu vas me donner de l'argent. » Et donc, Robert Durst, sa réaction la plus simple quand ce genre de situation se produit, il tue.
Oui.
Et après, il découpe le corps.
Oui, comme si c'était tout à fait naturel, d'ailleurs.
Mais déjà, vivre dans ces conditions-là pendant un an,
c'est incompréhensible.
En grimée, en vieille dame sourde, dans un rez-de-chaussée d'un appartement pourri.
Oui, c'est extraordinaire, parce que là, on est vraiment aux portes de la folie.
Hein, mais c'est incroyable.
On peut pas le dire autrement. Et vous parliez de l'argent qui tenaille Robert Durst. Il a des millions. Il se balade avec beaucoup d'argent sur lui. Il ne dépense rien, etc. Et d'ailleurs, il y a un petit épisode qui est assez rigolo. C'est que lorsqu'il part en cavale comme ça, il va se faire rattraper, alors qu'on le recherche, pour ce crime.
Il vole un sandwich de poulet à 3 dollars.
Voilà.
Non mais, alors qu'il se fait arrêter parce qu'il a volé un sandwich à 3 dollars, et dans la voiture avec les policiers, il leur dit « Mais non, mais je ne le referai plus, je suis malade, ma fille, donc il n'a pas de fille, m'a dit que je ne devais plus le faire, regardez, j'ai des centaines de dollars sur moi, je vous les donne, laissez-moi partir. » En fait, il est malade, je crois qu'il est gravement atteint. Quand même.
Il est gravement atteint et pendant ce temps, il faut le dire, Aurélie, en deux mots, l'enquête sur la disparition de son épouse Cathy, elle est aux oubliettes là. Hein, là, c'est loin.
Il n'y a pas de corps, c'est loin. Celle-ci, je pense qu'il passera au travers.
Robert Durst paraît désormais totalement hors de portée de la police et de la justice américaine. Pas assez de preuves pour l'impliquer dans la disparition de son épouse. Et pas d'indices suffisants pour l'inquiéter dans l'exécution du témoin numéro 1, Suzanne Berman. Pour le moment, en tout cas. Après son acquittement surprise au Texas, Robert Durst endosse avec un plaisir à peine dissimulé son habit de personnage sombre et inquiétant. Un homme qui aurait commis les pires forfaits mais que la justice n'a jamais réussi à coincer. Hormis la mort du retraité Maurice Black, un accident, il a toujours nié toute implication dans la disparition de sa femme et l'assassinat de la meilleure amie de celle-ci, Suzanne Berman. Durst rejoint ainsi la galerie des célébrités du crime américain sans jamais avoir été condamné. Il présente un casier judiciaire vierge. Un film inspiré de son histoire, Love and Secrets, sort en 2010. Durst a alors 67 ans et il accepte le tournage d'une mini-série qui retracerait son parcours. Il se livre sans retenue lors des interviews. Autant dire que le visage qu'il présente est glacial, celui d'un homme arrogant et sûr de lui. Il n'hésite pas à déclarer qu'il a menti à la police à plusieurs reprises. Personne ne dit jamais toute la vérité, martèle-t-il, sans savoir que sa franchise, effrontée, va le perdre. Les enquêteurs qui travaillent sur ce documentaire, baptisé The Jinx, en quelque sorte celui qui porte malheur, mènent une réelle enquête. Ils interrogent des témoins et retrouvent des indices. Ils s'aperçoivent ainsi que l'écriture d'une lettre signée Durst, adressée à Suzanne Berman quelques mois avant sa mort, est similaire à celle d'un mot anonyme adressé à la police pour indiquer qu'une femme, en l'occurrence Suzanne Berman, venait d'être assassinée. Dans les deux cas, la même faute d'orthographe apparaît, Beverly avec un E au lieu de Beverly sans E. Robert Durst est confronté aux deux lettres lors du tournage, il est mal à l'aise, il se rend aux toilettes alors que son micro est toujours branché et se parle à lui-même.
There it is, your court.
Traduction, il avait raison, en parlant du réalisateur. J'ai eu tort, qu'est-ce que j'ai foutu? Je les ai tous tués, bien sûr. Déclaration à un aparté qui ne sera découverte que bien plus tard par les réalisateurs. Le 14 mars 2015, sur la foi de ces paroles perdues, Robert Durst est arrêté dans un hôtel de la Nouvelle-Orléans. Il est cette fois inculpé du meurtre de Suzanne Berman, emprisonné. Libération sous caution rejetée. Il n'échappera pas à un procès. Philippe Coste, je suppose que vous connaissez bien cette série, cette mini-série, The Jinx.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette mini-série, et avec cette surprise à la clé?
La série elle-même reprend de manière bien structurée tous les doutes, toutes les invraisemblances, toute la cécité des forces de l'ordre et des procureurs toutes ces années, remet les choses en ordre. Effectivement, l'aspect médiatique, ou je dirais l'intérêt pour le documentaire, viendra justement de cette petite phrase inattendue et autre. Alors, ce qui est quand même assez extraordinaire, qui rajoute quand même une couche de folie dans toute cette affaire, c'est que le FBI est attendu un documentaire pour arrêter Robert Durst pour des actes qui dont le côté criminel sautait aux yeux depuis des années.
Alors allez-y Philippe Coste, quelle est l'explication à ce mystère? Parce que je poserai aussi la question ensuite à Aurélie Raya, mais quelle est l'explication? Pourquoi le FBI a attendu aussi longtemps pour découvrir qu'il y avait deux lettres identiques?
Aurélie, vous voulez répondre à ça?
Aurélie Garia, parce que Philippe Coste...
Pas ensemble, les différents services, je crois, enfin Philippe, les différents services de police n'ont pas mis en relation leurs enquêtes.
Oui. C'est ça. Ouais. Donc, il y a eu un hiatus entre la police locale et les fédéraux.
Ouais. Et ce qui se passe d'ailleurs assez souvent, Philippe Coste, aux États-Unis, parce que c'est un très grand pays, on oublie de le dire et de le souligner, c'est que ça communique pas très bien entre police en général, hein.
Oui, en particulier lorsqu'il s'agit d'un enquêteur local du Connecticut qui lance toute cette affaire. Ensuite, il y a toute une machine pour justement faire transférer les dossiers, obtenir une inculpation fédérale. Et il est vrai qu'énormément d'éléments n'avaient pas été corroborés, n'avaient pas été remis en place. Il a fallu...
Oui, tout à fait. Et donc, Aurélie Raya, on peut dire qu'il a échappé grâce à ce manque de communication, etc. Peut-être cette paresse aussi, on ne sait pas.
Il a eu beaucoup de chance dans
les services. Jusqu'à présent, il est passé entre les gouttes. Alors, il y a ces paroles qu'il prononce dans ce micro qui reste ouvert et voilà, où il va, espèce d'aveu comme ça, spontané, face à lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le dossier qui l'accablent dans la mort de Suzanne Berman?
Il y a la lettre, parce qu'il y a la même faute d'orthographe, où il explique il y a une lettre que reçoit le commissariat de Beverly Hills qui explique qu'il y a un cadavre dans une maison, la maison de Benedict Canyon, qui est adressée à Beverly Hills, et ensuite lui écrivait à Suzanne Berman en faisant la même faute d'orthographe et la même encre verte.
D'accord.
C'est pas des grandes preuves, mais c'est déjà une bonne preuve. C'est ça qui l'a fait douter Durst quand il l'a vu sous les yeux. Ensuite, ça c'est vraiment là une preuve.
Ça veut dire qu'il était. D'ailleurs, il va le reconnaître qu'il était sur les lieux au moins du crime. Hein. Il dira, moi, j'ai pas tué, mais
il fera une défense toujours habile.
Oui.
Il dira, j'ai pas tué, j'ai eu peur qu'on m'accuse, donc j'ai envoyé une lettre pour dire qu'il y avait un cadavre sur les lieux. Il peut peut-être encore s'en tirer. Il aura des très bons avocats qui vont expliquer qu'il a eu peur. Enfin, ça fait quand même plusieurs fois qu'il a peur ou qu'il a un problème.
C'est toujours quelqu'un qui a peur.
C'est quand même toujours quelqu'un qui s'en lie avec son histoire. Parce que la Suzanne Berman, elle était potentiellement en train de le faire chanter également et de lui demander de l'argent parce que sinon elle allait le dénoncer peut-être elle allait dire qu'il avait fait quelque chose dans le meurtre de Cathy Durst.
Donc on a l'impression qu'il élimine un petit peu tous les gens qui peuvent le gêner à un moment donné, hein, qui, tout ce qui est, tous les gens qui sont sur sa route et qui le gênent. Il apparaît toujours, même s'il n'est pas formellement inculpé chaque fois et poursuivi, mais voilà.
En fait, il ne faut pas trop l'énerver, hein, le chatouiller.
Oui, il est très susceptible.
Parce que ça n'a pas l'air d'être un tueur en série qui tue pour rien en passant en voiture. Non, il tue toujours. Parce... Bon, Cathy, sa femme, on ne sait pas s'il l'a tuée, mais en tout cas, elle a disparu après. Et de ce meurtre potentiel initial est né un peu un autre homme qui peut tuer pour s'en sortir.
Tout à fait. Philippe Coste, là, on parle de quelqu'un qui n'a pas l'air d'un tueur. Bah dites-nous quand même en quelques mots à quoi il ressemble Robert Durst. Parce que moi j'ai décrit que c'était un petit bonhomme maigre avec un regard un peu sévère.
Le personnage qui va comparaître maintenant est une épave. Hein. Il a eu un nombre considérable d'opérations. Il a un drain qui lui sort d'un côté du crâne. Il est c'est un petit personnage assez sec, le regard assez dur. C'est un type qui mais maintenant, c'est un type qui a à peu près 78 ans, qui a très très mal vécu ces dernières années, qui est dans un état de santé assez pitoyable.
On va en parler. Mais donc c'est quelqu'un, comme disait Aurélie Raya, c'est pas quelqu'un qui a forcément un physique de tueur en série, j'ai envie de dire.
Non, il n'a pas l'air. Mais je crois que c'est quelqu'un qui peut. Je ne sais pas s'il y a un physique de tueur en série.
Non, il n'y en a pas.
Dans son cas particulier, effectivement, ce que dit Aurélie est tout à fait vrai. C'est quelqu'un qui a sans doute tué une première fois, qui a ensuite, par un côté, je dirais, obsessionnel, par une forme de folie, qui sera certainement documentée à un moment, est conduit à couvrir ses traces et qui n'a pas vraiment le contrôle sur ses actes. D'ailleurs, la petite phrase qu'il prononce quand il est avec il a oublié qu'il a gardé son micro et qui commence à bougonner en disant je les ai tous tués et autres. Cette petite phrase peut même être analysée. Peut-être que il proteste en disant on pense que comme par hasard on me met sur le dos ce meurtre. Donc même cette petite phrase ne sera pas forcément utilisable à plein pour l'incriminer.
Et on va le voir au cours du procès, puisque Robert Durst va être jugé. Il a effectivement prévu une ligne de défense solide et espère bien s'en tirer une nouvelle fois. Tout va dépendre du visage qu'il va montrer devant les jurés, un être fantasque et désaxé, ou tout au contraire un tueur de sang-froid. Le procès de Robert Durst devait se tenir au mois de mars 2020, mais la crise sanitaire a bouleversé le programme. Il est prévu qu'il comparaisse donc à partir du 17 mai 2021 devant le tribunal de criminel de Los Angeles. Il aura alors 78 ans. Durst est accusé d'avoir tué Suzanne Berman, la meilleure amie de sa femme disparue. Il l'aurait exécutée d'une balle dans la tête pour l'empêcher de parler. Ses avocats, David Chesnoff et Dick De Guerin, celui qui l'avait fait acquitter au Texas, affirment que leur client n'a pas tué. Robert Durst se serait rendu chez Suzanne Berman et l'aurait découverte morte. Il se serait alors affolé, aurait pris la fuite. Il aurait ensuite rédigé un mot à l'attention de la police afin que le corps puisse être retrouvé. Les avocats veulent démontrer que leur client est sincère, un homme qui aurait été piégé par des journalistes peu scrupuleux. Le procureur estime que les paroles prononcées en marge du tournage de la mini-série sont une sorte de confession. Dans l'attente de son procès, Robert Durst est incarcéré dans l'aile médicale de la prison des Twin Towers à Los Angeles. Il serait dans un état d'une grande fragilité, opéré d'un cancer de l'œsophage et d'une tumeur au cerveau, selon ses avocats. Il serait encore addict à l'alcool, à la marijuana et aux méthamphétamines, se déplacerait avec difficulté et tremblerait de tout son corps. Serait-ce une nouvelle ruse pour apitoyer les jurés de la part d'un homme qui n'aura jamais cessé de porter des masques. Aurélie Raya, journaliste à Paris Match, et ce soir l'une de nos invitées dans l'heure du crime. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès ?
D'en savoir un peu plus, si possible, sur la façon dont Suzanne Berman a été exécutée, les preuves sur sa personnalité quand même. Je pense qu'il y aura quand même des... Ils vont creuser. Ils vont attaquer l'homme. Ils vont essayer de décortiquer son passé, de reparler. Je pense qu'ils vont reparler de Cathy Durst. Ils vont reparler de sa femme. Ils vont essayer de dire qu'il y a des liens entre toute sa disparition, le meurtre de Sylvain Berman.
On va essayer de le faire craquer.
Ouais. Oh,
d'accord. Et pourtant, Philippe Coste nous le disait il y a un instant, il a une défense tout à fait excellente, une défense de feu presque, hein, qui va l'épauler. Comment est-il aujourd'hui ? On l'a décrit très fatigué, etc. C'est
Il est éprouvé par 6 ans d'incarcération. Enfin, c'est un homme qui n'est pas habitué à ce genre de traitement, même s'il est dans une aide médicale et... Enfin, il n'est pas traité de façon trop atroce, mais il est enfermé depuis 6 ans et je pense qu'il est assez fou. Mmh. Donc ça ne doit pas être quelqu'un qui a toute sa santé mentale maintenant. Enfin, on n'en sait rien avec lui, parce qu'il est très très spécial. Mmh. C'est un homme qui à la fois peut être fou et puis il s'est quand même remarié.
Il s'était remarié
il y a une quinzaine d'années avec une femme qui avait payé sa caution pour le faire sortir, qui était très intéressée qui avait procuration sur ses comptes et qui en plus, comme elle est mariée, peut pas témoigner contre lui. Parce qu'on ne témoigne pas contre son époux. Donc c'était malin. Et comme ça, elle l'aidait, elle s'est levée un complice pour ses cavales si jamais il y avait des problèmes.
Donc on dit que
c'est quelqu'un d'assez intelligent par ailleurs.
C'est un fou qui a toute sa tête, on pourrait dire.
C'est possible. Hein, après, il a quand même 78 ans, il est très malade, donc je pense qu'il est très diminué. Ouais. Mais sa défense va être spectaculaire, normalement. Enfin...
Philippe Coste, en direct ce soir dans l'heure du crime, est-ce que l'Amérique va suivre ce procès ? Est-ce que l'affaire Durst passionne encore l'opinion ?
J'en doute un peu, c'est un point de vue du fait que...
Tout de même, un monstre pareil.
Oui, c'est un monstre et autres, mais je crois que la défense joue aussi sur la vulnérabilité du personnage maintenant, sa fatigue, son aspect physique absolument décati, sa maladie. On ignore encore si vraiment le procès sera télévisé aussi. C'est un autre aspect. Pour le premier volet du procès a été en 2020, n'avait pas été filmé et autres. Donc on n'en sait rien. D'autre part, il y a un aspect tactique, hein, de la part de la défense. La défense va jouer sur sa vulnérabilité physique, sur le côté « Regardez cet homme, il est inoffensif maintenant, il n'en a plus pour très longtemps ». On a, dans tous les cas très médiatiques, on avait vu pour Harvey ou Weinstein aussi, par exemple, on jouait aussi sur le côté affaibli, boiteux du personnage, de façon à justement diminuer son emprise, diminuer son pouvoir et provoquer l'apitoiement du juré.
C'était aussi le cas, Philippe, c'était aussi le cas pour Phil Spector, on s'en souvient,
de procès.
Ça n'a pas empêché ni Phil Spector ni Harvey Weinstein de se retrouver en cabane pour de nombreuses années.
Je pense que ce sera cette fois-ci. Je pense que la cavale ou le je dirais l'impunité de Durst, on a atteint ses limites cette fois-ci. D'abord, il s'est passé beaucoup de choses en Amérique. Hein. Les riches et les puissants en ont pris pour leur grade récemment avec toutes les affaires MeToo. Hein, ça, on peut le voir. Il y a une sensibilité plus importante des jurés au côté justement à l'impunité dont les gens pouvaient bénéficier du fait de leur argent et de leurs équipes d'avocats hors pair.
Alors ça, c'est bien sûr, c'est important ce que vous soulignez, c'est que finalement l'époque a changé et que l'heure n'est plus comme ça aux acquittements et au relax du moment qu'on est riche et qu'on a de bons avocats, même si c'est toujours le cas aux États-Unis.
Il y a aussi un aspect qui est important, c'est qu'il y a une énorme médiatisation sur des années, plus d'une décennie, plus ce documentaire en 2015. Et je pense qu'il y aura une forme de lassitude de l'opinion de ce point de vue-là. Et j'ai l'impression qu'il y aura une plus grande lassitude de l'opinion de ce côté-là, ou peut-être justement un revirement de l'opinion contre lui, et qui pourrait jouer justement les jurés en ayant assez justement de l'impunité des personnages importants du pays des puissants. Je crois que ça peut jouer contre lui énormément.
Aurélie Raya, vous êtes d'accord avec ce que dit Philippe Coste, c'est-à-dire qu'on arrive au bout d'une histoire là? Et que finalement, il a fini par lasser.
En fait, l'histoire, je pense qu'elle s'est terminée pour les gens que ça intéresse à la fin de The Jinx. Quand il a vu, c'est tellement spectaculaire, la mini-série, que le procès après, si on en entend quelque chose, c'est peut-être deux, trois vérités qui ne viendront peut-être pas. Mais là, ça traîne en longueur, on va dire, maintenant.
Ah, c'est ça.
C'était tellement spectaculaire, ce documentaire, qui nous a fait découvrir cet homme pour beaucoup d'entre nous, qu'aujourd'hui, 6 ans plus tard, arrêté, enfin, c'est comme s'il a 78 ans, il est malade. C'est peut-être déjà le jugement.
Oui, c'est ça.
N'a plus tellement d'intérêt par rapport à l'histoire, en fait.
Est-ce que vous disiez qu'on va aborder. Alors, il y a beaucoup de témoins qui vont défiler lors de ce procès, hein, notamment des amis de sa femme.
Des amis de sa femme, la famille de sa femme. Je pense que tous les gens de l'époque vont essayer de le faire. De lui faire avouer quelque chose, ou de le faire parler de sa femme, de lui, ce qui n'est pas arrivé depuis 40 ans, je pense que... Mais là-dessus, je ne crois pas qu'il va dire grand-chose, moi, curieusement.
On verra. Chaque procès, c'est comme une cour d'assises en France, hein, un tribunal
criminel. Ils vont tous défiler pour dire, en 82, il était comme ci, comme ça, la femme a disparu là, c'est lié, enfin, ça va être une analyse.
Oui, la famille de sa femme, et il y a même sa famille à lui, je crois que c'est son frère, qui disait qu'il avait entraîné des chiens à une époque, avant la disparition de sa femme.
Ah oui, il avait entraîné plusieurs skis qui s'appelaient tous Igor, il les a tous tués.
Voilà, c'est ça.
Il
les a tous tués, et son frère dit que finalement, il les aurait enterrés pour avoir une expérience.
S'entraîner au dépeçage, peut-être, oui, à la fois pour bien découper et pour cacher les corps. C'est possible, le frère a l'air de bien connaître son frère.
Et on verra effectivement si la vérité sur l'enlèvement de son épouse surgit au cours de ce procès. Merci beaucoup Aurélie Raya et Philippe Coste d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'incroyable histoire de Robert Durst. 40 ans d'esquive avec la justice et l'heure de ce jugement qui va bientôt sonner. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir. C'était à nouveau un plaisir avec vous. Heure du crime.